Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette revue de presse du lundi 1er mars 2021. Voici les titres de l'actualité. Je commencerai par vous parler de la difficile édification d'un sanctuaire aujourd'hui, à savoir le sanctuaire de Notre-Dame-des-Neiges à Saint-Pierre-de-Colombiers en Ardèche. Vous en avez sans doute entendu parler, vous ne savez pas trop quoi en penser. Je vous lirai l'interview de Père Bernard, supérieur de la famille missionnaire de Notre-Dame, interview qu'il a donnée au magazine de L'Homme Nouveau, numéro 1730. Dans cet article, il vous redonnera toutes les étapes pour que vous soyez au clair avec ce projet. La semaine dernière, je vous avais parlé et partagé les réflexions sur la santé de Tudor Darville et de Martin Stephens. Aujourd'hui, nous allons parler de la question du conflit. Un chrétien peut-il être en conflit ou doit-il opter pour le pas de vague et tout accepter gentiment? La réponse est non. Je vous partagerai les réflexions de Don Thomas Lapenne et de Camille Rocher, psychologue et psychothérapeute de couple. Réflexions parues dans le magazine Chemin d'éternité, magazine édité au sanctuaire de Montlygon de mars-avril 2021. Culture chrétienne, deux livres, cette fois-ci aux éditions des Béatitudes. Le premier, Chemin de guérison des blessures de l'enfance sur les pas de Thérèse de Lisieux, de Bernard Dubois. Et le dernier livre de Monseigneur Hayet, Embarqué avec Jésus, méditation pour tant d'épreuves. Nous commençons cette revue de presse avec le sanctuaire en cours d'édification, le sanctuaire Notre-Dame-des-Neiges, donc à Saint-Pierre-de-Colombiers en Ardèche. Voici maintenant l'interview qu'a donnée Père Bernard Domini, supérieur de la famille missionnaire Notre-Dame, à L'Homme Nouveau pour retracer un petit peu ce difficile parcours. Vous avez commencé les travaux en 2019. Quel est l'objectif du site Notre-Dame-des-Neiges? Réponse de Père Bernard. L'objectif est double. Accueil des pèlerins de plus en plus nombreux et service liturgique de la communauté qui grandit. Le village de Saint-Pierre-de-Colombiers, dans lequel se construit le site, est le centre spirituel de la famille missionnaire Notre-Dame. Le père Lucien-Marie Dorne, notre fondateur, y a été nommé curé par Monseigneur Coudert, l'évêque de Viviers, le 11 février 1946. Le 15 décembre de la même année, l'évêque a béni la statue de Notre-Dame-des-Neiges, érigée au-dessus du village, et il a accepté la fondation de la première équipe de Notre-Dame-des-Neiges, à l'origine des apôtres de l'amour, sous la responsabilité de Mère Marie Augusta. Nos fondateurs, dès 1947, ont eu le projet de construire un sanctuaire dédié à Notre-Dame-des-Neiges à proximité de la statue. Ils n'ont pas pu réaliser ce projet parce que pèlerinage et communauté n'étaient pas assez développés. Quelles ont été les étapes pour arriver au permis de construire? Père Bernard nous répond. Le 8 mai 2015, il nous a été proposé un terrain suffisamment grand pour construire le sanctuaire et ses annexes. J'ai fait part de notre projet le 26 septembre 2015 à notre nouvel évêque, Monseigneur Balza. Il m'a dit de lui présenter les plans dès qu'il serait prêt et qu'il serait heureux de bénir notre sanctuaire. Le 6 janvier 2016, en présence de 70 membres de la communauté, il a renouvelé explicitement son soutien. Fort du soutien oral de notre évêque, nous avons rencontré Madame le sous-préfet et le secrétaire général de la sous-préfecture pour monter notre projet. Nous avons rencontré tous les responsables de l'administration, dont l'architecte des bâtiments de France, qui l'a validé, considérant qu'il s'inscrivait bien dans le site naturel du lieu-dit Les Chambons. Fin juin 2018, j'ai annoncé aux membres du conseil presbytéral de Viviers et à notre évêque que nous allions déposer le permis de construire. Celui-ci nous a été délivré le 12 décembre 2018. Personne ne l'a contesté dans les deux mois légaux. Pourquoi les travaux sont à l'arrêt? Le groupe d'opposants dits historiques du village ne pouvait pas contester le permis de construire, qui était, selon les mots de Madame le préfet de l'Ardèche, irréprochable. Après le début des travaux, acceptés par la préfecture, Ce groupe s'est allié avec des membres de l'extrême gauche pour empêcher la construction du site. Leur combat idéologique s'est habillé de prétextes écologiques. La presse locale, régionale, puis nationale a été alertée par eux et s'est emparée du sujet. Notre projet a été jugé pharaonique, gigantesque. On a parlé de méga-église qui aurait 3 fois la capacité de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Tout ce bruit pour dénigrer le projet et le rendre inacceptable. Le 13 juin 2020, des zadistes ont occupé le site. Madame le préfet les a fait évacuer. Le 16 juin, une réunion de conciliation avait lieu en préfecture de Privas avec nos opposants, des élus locaux, des membres de l'administration et nous. Un conseiller régional communiste et une députée européenne de Europe Écologie Les Verts étaient là pour soutenir nos opposants. Ils ont ensuite fait appel à Madame le ministre de l'Écologie pour lui demander de suspendre les travaux. Madame le préfet a pris un arrêté le 29 septembre pour interrompre tous les travaux sur le site. Nous attendons une décision cet été pour les reprendre. D'où vient le pèlerinage à Notre-Dame-des-Neiges ? La statue de Notre-Dame-des-Neiges est le fruit d'un vœu formulé par quelques femmes de l'Action catholique le 23 juillet 1944 si le village était protégé. Notre père fondateur a encouragé les paroissiens à réaliser le vœu. Il a proposé le nom de Notre-Dame-des-Neiges pour la statue parce que cette dévotion lui venait du scoutisme. Les pèlerins viennent-ils avec des intentions particulières ? Des grâces nombreuses ont déjà été données mais non recensées. Couples en attente d'enfants, guérison, conversion, grâce pour mener le combat olympique de la pureté, grâce de pardon. Lors de la fondation de notre foyer de Cannes, il y a une quinzaine d'années, les Cannois nous avaient dit qu'ils ne viendraient pas en pèlerinage en Ardèche. Aujourd'hui, 4/4 viennent de Cannes pour la fête de Notre-Dame-des-Neiges en décembre. Tous nos foyers organisent des cars ou des voitures. La dévotion au cœur immaculé de Marie ne cesse de grandir. Nous retrouvons là un des plus grands désirs de l'abbé André Richard, cofondateur de l'Homme Nouveau, qui était un ami de notre fondateur. Quelle est la spécificité de la famille missionnaire de Notre-Dame ? Notre mission est l'éducation spirituelle des cœurs à la ressemblance des cœurs de Jésus et Marie. Chaque jour, nous récitons cette prière à la fin de l'office du milieu du jour. Mon Dieu, faites l'unité des esprits dans la vérité et l'union des cœurs dans la charité. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cet article dans L'Homme Nouveau, numéro 1730. Nous continuons cette revue de presse avec maintenant une question épineuse, douloureuse, noueuse, forcément la question du conflit. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont un peu décontenancés par rapport à cette attitude. Est-ce qu'on doit être en conflit ou est-ce qu'il faut opter pour un pas de vague et tout accepter gentiment ? Bien évidemment que non. Je vous propose dans un premier temps la réflexion de Don Thomas Lapenne, donc, qui est curé à Montligion. Est-ce cela être chrétien ? Doux, d'humeur égale, conciliant ? Ou bien peut-il être d'avis contraire, revêche, en désaccord, voire rebelle ? Et tout d'abord, est-il possible de vivre sans conflit ? Nous reviennent à la mémoire des paroles fortes de Jésus que nous avons du mal à interpréter. Dans l'évangile de saint Matthieu, on lit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive ». Quelques réactions de Jésus sont aussi caractéristiques à ce sujet. Les marchands chassés du temple, les invectives contre les pharisiens et les grands prêtres. De même, au cours de sa passion, quand on le gifle injustement, Jésus répond « Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Au cœur du conflit et des accusations de la part du Sanhédrin, Jésus prend le parti de se défendre, tout au moins de défendre la vérité, de témoigner de sa mission alors qu'il avait affirmé « À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre ». La douceur, la bienveillance, la disposition au pardon et à la miséricorde n'enlèvent pas la possibilité d'entrer en conflit, de les vivre et ensuite de les résoudre. En effet, le Christ a été en conflit avec les autorités de son temps, avec les représentants religieux de son époque, même avec les gens de sa famille qui le traitent de fou. Il n'a pas eu peur du conflit, de s'opposer à une certaine mentalité de son temps, trop mondaine, de redresser en invitant à la conversion ceux qui marchaient sur un chemin de perdition et de réveiller les consciences endormies. Il manifeste ainsi son zèle pour le salut des âmes, sa charité envers les ennemis, son désir ardent de faire aimer le Père. S'il entre en conflit avec sa génération, c'est pour susciter en elle une nouvelle moisson d'adorateurs en esprit et en vérité. Ce conflit aussi qu'ont vécu les apôtres est l'occasion d'approfondir la parole de Dieu. De plus, paradoxalement, l'événement lui-même devient parole de Dieu. Dans ce qui arrive, on discerne l'intervention de Dieu, qui est un choix d'ouverture aux autres. Et cela fait grandir la communion. Le conflit permet de sortir des intérêts personnels, des traditions ou des particularités culturelles pour rejoindre la vérité de l'Évangile, au-delà des divergences d'opinion et de tendances. Ainsi, la charité est une façon de résoudre du conflit par le haut. N'ayons pas peur des conflits, mais recherchons l'unité et non l'uniformité par la charité, tout en respectant la justice et la vérité. C'est ce que l'on lit dans le psaume 85. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Donc c'était la réflexion de Don Thomas Lapenne. J'enchaîne maintenant avec la réflexion de Camille Rochet, qui est psychologue et psychothérapeute de couple. Dans votre pratique, l'observation des conflits doit être importante. Réponse de Camille Rochet. Détrompez-vous, c'est d'ailleurs intéressant. La plupart des couples se présentent car certes, ils ont des difficultés. Mais alors que, selon eux, ils ne sont jamais en conflit sans désaccord sur l'essentiel. Et pourtant, la crise est advenue. C'est que cette absence de désaccord révèle le plus souvent que l'un s'exprime et que l'autre se tait par peur du conflit, comme si celui-ci mettait en danger leur entente qui nécessiterait d'être d'accord sur tout. Alors ne pas être en guerre ne signifie pas être en paix ? D'une certaine manière, mais surtout, c'est une mauvaise interprétation de ce qu'est un couple et de ce qu'est le conflit. Ce dernier, en effet, n'est pas la dispute violente ou le règlement de compte qui nécessite un vainqueur et un certain écrasement de l'adversaire. Le conflit est la confrontation d'idées contraires que l'on doit exprimer pour être honnête avec son conjoint, mais dans le but de trouver une solution pour encore mieux vivre ensemble. Finalement, accepter le conflit, c'est-à-dire la confrontation d'idées opposées, c'est accepter la différence. Le fuir, c'est être dans l'utopie qu'un couple réussi est celui qui associe les deux mêmes personnes en fusion permanente, d'accord sur tout. Cette illusion ne survit pas au premier temps. L'absence de tout conflit, sinon, est sans doute le symptôme que l'un des deux se tait, peut étouffer et parfois aller chercher ailleurs la liberté, dans le sport, activité, boulot, infidélité conjugale. Le conflit alors serait sain dans une vie de couple. D'où vient alors cette peur que vous soulignez d'avoir affaire avec lui ? Ce n'est pas le conflit qui est sain, mais sa résolution dans une recherche à deux de manière équilibrée. C'est le conflit dont on sort par le haut parce que l'on aime l'autre différent. Il ne doit pas être une guerre dans laquelle l'un des deux doit sortir vainqueur. Le tout est qu'à la fin du conflit, le couple en sorte uni. Que chacun se soit senti compris et que l'issue convienne à tous les deux. La société contemporaine valorise celui qui agit pour lui-même. Je ne dénigre pas du tout le développement personnel, il y a beaucoup de bien à y prendre, mais imaginez que l'on peut tout résoudre seul, trouver son équilibre personnel sans lien avec l'autre et sans équilibre conjugal est une illusion. Nous ne sommes pas faits pour cela. Dans tout conflit, le travail est à faire ensemble, en couple et avec les enfants. C'est le sens du nom de mon blog « À nous tous ». Nous sommes tous toujours dans un équilibre personnel à retrouver, dans des doutes sur soi. C'est la vie. Le croyant sait bien que malgré nos efforts, l'amour de l'autre ne sera jamais complètement inconditionnel. On ne sera aimé pleinement qu'au ciel. Et pour terminer, toute situation conflictuelle peut être donc résolue ? Parfois, les peurs et le déséquilibre du couple l'en empêchent et il doit être aidé. Pour certains, ce besoin n'existe pas au point d'aller consulter, et mon blog leur permet de commencer le travail chez eux. Ce sont des petites vidéos sur tous les thèmes que je rencontre en consultation. Je les ai multipliés pendant le temps du confinement, car il existait alors un véritable besoin dans des familles confinées, parfois en tension. Certaines situations ne se résolvent pas pour différentes raisons. Par exemple, le travail peut être saboté par l'un des deux qui inconsciemment ne souhaite pas sortir du conflit. Deuxièmement, certains cas sont très lourds avec une personne qui ne peut s'affranchir de sa dépendance à son conjoint. Ou alors, par ma propre imperfection, je peux ne pas avoir compris le problème. Dans tous ces cas, la première responsabilité est la protection des enfants et la séparation peut être le moindre mal. Mais heureusement, la majorité me renvoie que ce travail leur fait du bien et que l'on peut apprendre à surmonter les conflits. Si cette réflexion aussi vous intéresse, ainsi que celle de Don Thomas Lapène, vous pourrez les retrouver dans le magazine édité par le Sanctuaire de Montlygon, Chemin d'éternité. Je vous retrouve dans quelques instants pour la culture chrétienne. À tout de suite. Passons maintenant à la culture chrétienne, avec deux livres donc parus aux éditions des Béatitudes. Le premier livre, « Chemin de guérison des blessures de l'enfance sur les pas de Thérèse de Lisieux » par Bernard Dubois. Présentation de l'ouvrage. Toute famille porte en elle-même un trésor, des richesses et des joies, mais aussi des limites, des pauvretés et des souffrances. L'homme naît et se construit au sein d'une famille. Il y fait, très jeune, l'expérience de l'amour, en même temps que parfois celle du manque de tendresse et de présence sécurisante, ce qui peut le gêner, voire entraver sa croissance vers la maturité. Ce livre s'adresse à tous les états de vie, à ceux qui cherchent un chemin de libération et de guérison de leur propre histoire familiale, afin d'accéder à leur pleine identité d'homme ou de femme. La Sainte Famille leur est donnée ici comme lieu de pacification des blessures de l'enfance. Le Christ nous offre ses parents, Saint Joseph et la Vierge Marie, pour être nos modèles et nous accompagner dans la résolution de nos blessures passées. La proximité entre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et l'auteur permet d'heureux rapprochements. L'héroïcité des vertus des parents de la Carmélite, les bienheureux Louis et Zélie Martin, n'a pas empêché que celle-ci porte des blessures profondes, l'angoisse, le scrupule, la fragilité affective. Pour être un saint, il ne faut pas forcément être le modèle accompli de ce que l'on pense être. C'est le mystère de notre humanité blessée par le péché originel, mais restaurée dans le Christ. Ce livre peut être lu comme un guide de la vie familiale par les repères qu'il donne sur l'identité du père, de la mère et de l'enfant d'une part, les indications sur l'éducation et la gestion de la relation au sein d'une famille d'autre part. Donc, il s'agit du livre « Chemin de guérison des blessures de l'enfance » sur les pas de Thérèse de Lisieux par Bernard Dubois. Et enfin, le dernier livre de Monseigneur Hayet intitulé « Embarquer avec Jésus, méditation pour tant d'épreuves ». Monseigneur Hayet, dans cet ouvrage, nous éclaire sur le grand mystère des épreuves individuelles et collectives dont cette pandémie actuelle. Les femmes et les hommes du monde entier ont traversé, avec cette pandémie et les confinements, une épreuve sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Cette épreuve a-t-elle un sens? Quelle leçon peut-on en tirer? Comment Dieu, qui est amour, peut-il permettre la souffrance? Dans ce recueil de méditations, tiré des homilies qu'il a prononcées pendant la période du premier confinement, Monseigneur Hayet montre que l'Écriture sainte nous éclaire sur ce grand mystère. Par sa parole écoutée et méditée chaque jour, en particulier dans la liturgie, le Seigneur vient nous révéler le sens qu'il donne lui-même aux événements de la vie présente. À travers ces méditations, le lecteur est conduit dans une conversion de son regard sur les épreuves qui nous abattent, pour y découvrir leur sens spirituel et y voir peu à peu une occasion providentielle de revenir à l'essentiel de notre alliance, avec la sagesse éternelle, celle de notre baptême. C'était le livre, donc le dernier livre de Monseigneur Hayet, paru aux éditions des Béatitudes, « Embarqué avec Jésus, méditation pour tant d'épreuves ». Monseigneur Hayet risque d'être notre invité justement prochainement sur Radio Maria pour nous en parler en direct. La date est encore à confirmer. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Il est temps de finir cette revue de presse du lundi 1er mars 2021. Je vous redonne les titres de l'actualité. Je vous ai d'abord parlé de la difficile édification du sanctuaire de Notre-Dame-des-Neiges à Saint-Pierre-de-Colombier en Ardèche. Je vous ai lu l'interview que le père Bernard, supérieur de la famille missionnaire de Notre-Dame, a donnée au magazine de l'Homme Nouveau, numéro 1730. Père Bernard réexplique bien toutes les étapes de cette édification. Nous leur apportons tout notre vif soutien. Je vous ai ensuite parlé de la question du conflit. Un chrétien ne doit pas forcément être dans le pas de vague et tout accepter gentiment. Je vous ai lu deux réflexions, celle de Don Thomas Lapen, qui nous fait comprendre qu'il ne faut pas avoir peur des conflits, mais de rechercher l'unité par la charité, tout en respectant la justice et la vérité. Ainsi que la réflexion de Camille Rocher, psychologue et psychothérapeute de couple, auteur d'un blog « À nous tous », que vous pouvez trouver sur le site internet. Et les deux réflexions figurent dans le magazine « Chemin d'éternité ». Culture chrétienne, deux livres parus aux éditions des Béatitudes, « Chemin de guérison des blessures de l'enfance sur les pas de Thérèse de Lisieux » de Bernard Dubois et « Embarqué avec Jésus », Méditation pour tant d'épreuves de Monseigneur Hayet, qui sera prochainement notre invité. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous retrouve avec joie lundi prochain.